Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet, pour un podcast qui cette semaine donne la parole à Mankeur Ndiaye, le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, la mission de paix de l'ONU déployée dans le pays. Le diplomate sénégalais qui était de passage il y a quelques jours à New York et qui est revenu sur la mise en œuvre de l'accord de paix, le rôle des groupes armés, ainsi que sur la préparation des élections présidentielles et législatives organisées en 2020 et en 2021. Mankeur Ndiaye, vous êtes le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine et vous avez briefé notamment le Conseil de sécurité cette semaine sur la situation dans le pays. Vous avez beaucoup parlé de l'accord de paix, ça fait un an que cet accord a été signé. Alors d'abord, quel bilan tirez-vous de sa mise en œuvre?
L'an 1 de l'accord a été marqué le 6 février 2020. Nous constatons que c'est un accord qui tient. C'est le 8e accord. Les 7 précédents ont tous échoué et nous pensons que celui-là sera le dernier pour plusieurs raisons liées au fait que l'accord avait prévu la mise en place d'un gouvernement inclusif et ce gouvernement a été mis en place. Il travaille, il fonctionne depuis un an. Les conseils de cabinet se tiennent, les conseils des ministres se tiennent, les ministres issus des groupes armés, 10 sur les 14, sont dans le gouvernement, ils siègent, ils travaillent. Ensuite, les mécanismes de suivi de l'accord ont été mis en place. Un comité de mise en œuvre nationale fonctionne, un comité exécutif de suivi fonctionne au niveau des préfectures également. Les comités préfectoraux de mise en œuvre de l'accord fonctionnent. Malgré les violations de l'accord, malgré les violations des droits de l'homme, malgré la poursuite des taxations illégales, malgré le fait que certains bâtiments administratifs continuent d'être occupés par les groupes armés, malgré tout cela, nous avons noté quand même une amélioration de la situation au plan politique. Nous avons noté également une baisse des violations de l'accord, une baisse des violations des droits de l'homme. Et si nous comparons ce qui se passe depuis le 6 février 2019 et ce qui se passait avant le 6 février, nous constatons qu'il y a une dynamique positive, donc une baisse tendancielle des violences. Donc nous considérons que l'accord marche, malgré les défis à relever, malgré les nombreux obstacles sur le chemin de l'accord. Parce qu'un accord de paix, je le dis souvent, ce n'est pas la paix. Un accord de paix, c'est une étape. Mais un accord de paix ouvre la voie vers la paix. Ce n'est pas encore la paix, un accord de paix. Donc il faut le savoir. Et à travers le monde, les accords de paix marchent comme ça. Certains pensaient que dès que l'accord est signé, c'est fini, les groupes armés vont désarmer, la paix va revenir immédiatement. Non, c'est un long processus. Il faut absolument construire. Et nous y travaillons. Et le fait majeur à noter, c'est que tous les groupes signataires de l'accord, les 14 groupes, réaffirment au quotidien leur attachement à l'accord, même s'ils continuent à en violer certaines dispositions. Mais nous avons des cadres de dialogue avec les groupes armés qui nous permettent à chaque fois d'attirer leur attention sur tel ou tel acte de violence. Donc, en tant que MINUSCA, nous continuons nos bons offices politiques, mais en même temps, nous restons sur une position robuste. Nous n'excluons pas l'usage de la force. Nous avons usé de la force à plusieurs occasions, même après la signature de l'accord, mais nous voulons privilégier le dialogue politique, les bons offices politiques, parce que notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise en Centrafrique. La solution est politique, et comme elle est politique, la solution, il faut mettre l'accent sur les bons offices politiques.
Alors justement, vous l'évoquiez, comment expliquez-vous les retards observés dans l'application de l'accord et la poursuite des violences? Vous avez évoqué les violences dues à certains groupes, dans le Nord en particulier.
Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de variables explicatives. Vous savez, les groupes armés sont assis sur des intérêts économiques immenses. Ils gèrent des territoires, ils exploitent illégalement les ressources naturelles du pays, l'or, le diamant, qu'ils commercialisent de manière illégale. Ils continuent leur taxation illégale sur les populations, ce qui leur permet d'avoir des ressources importantes et de pouvoir également acquérir des armes. Mais malgré tout, certains d'entre eux s'engagent avec le gouvernement et avec nous dans la mise en œuvre de l'accord. Parce qu'ils participent, ces groupes, encore au gouvernement. Aucun n'a décidé de se retirer du gouvernement. Ils participent dans les différents comités de mise en œuvre, au niveau national comme au niveau des préfectures. Ils y siègent, ils travaillent avec nous. Vous savez, la dynamique des groupes armés, elle est très complexe. Les chefs n'ont parfois pas de prise sur les éléments, les combattants sur le terrain. Et ces combattants, ils ne perçoivent pas de salaire. Pour vivre, ils ont besoin de procéder à la taxation illégale. C'est pourquoi il faut qu'on travaille sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Il y a un vaste chantier de réforme du secteur de la sécurité qui est en jeu, qui a besoin d'un appui beaucoup plus important. Parce que le désarmement, la démobilisation permet à certains combattants qui réunissent les conditions d'intégrer les forces armées centrafricaines ou les forces de sécurité intérieure, d'autres qui ne remplissent pas les conditions peuvent être orientés vers des projets de développement socio-économique avec des financements. Mais tant qu'on n'a pas cette perspective pour ces jeunes, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Donc c'est extrêmement important qu'on ouvre des perspectives d'emploi à ces jeunes qui sont dans les groupes armés et qui combattent parfois pour des questions de survie.
Il y a un régime des sanctions qui a été imposé justement contre ceux qui violent l'accord. Vous parliez donc de ces groupes qui à la fois sont au sein donc des autorités à Bangui et en même temps qui donc continuent, ou certains de leurs membres continuent des exactions sur le terrain. Donc qu'est-ce que le régime des sanctions peut apporter ?
L'article 35 de l'accord prévoit d'appliquer des sanctions aux groupes qui violent les dispositions de l'accord. Mais le régime des sanctions des Nations Unies est différent du régime des sanctions de l'Union africaine. Parce que le régime de sanctions des Nations Unies passe par le Conseil de sécurité. Le régime de sanctions de l'Union africaine passe par le Conseil de paix et de sécurité. Dans l'accord de paix, on a parlé de sanctions de manière générale sans définir la nature des sanctions, les types de sanctions et dans quelles conditions les sanctions devraient être appliquées. Donc nous, MINUSCA, nous avons travaillé sur ce document et nous avons fait des propositions au comité exécutif de suivi, aux garants d'abord, l'Union africaine de la CAC. Le document que nous avons préparé sur la définition des types de sanctions a été présenté au comité exécutif de suivi il y a quelques mois et qui a été adopté. Donc désormais, il faut que les sanctions soient appliquées à tous ceux qui violent l'accord. Mais vous savez, certains dirigeants de groupes armés font déjà l'objet de sanctions, soit des Nations Unies et de l'Union européenne, soit des Nations Unies, de l'Union européenne et des États-Unis. Mais il faut voir l'efficacité des sanctions aussi qu'on applique. Quand vous dites à un dirigeant de groupe armé, interdiction de voyager, lui ne voyage pas. Il voyage de village en village. Vous dites, gel des avoirs, lui n'a aucun avoir dans le compte bancaire. Donc, est-ce que ce type de sanctions sont efficaces? Voilà la question qu'on se pose. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est l'un des dirigeants d'un groupe armé parmi les plus importants, le FPRC, Abdoulaye Hissène. Il fait l'objet de sanctions. Mais il nous dit, écoutez, même j'ai fait l'objet de sanctions, mais moi je fais ce que je veux. De toute façon, je suis déjà sous sanctions. Qu'est-ce que ça me fout d'être sous sanctions? Moi, je ne voyage pas. Moi, je n'ai pas de compte bancaire. Donc, si on gèle mes comptes, je n'en ai pas. Si on m'interdit de voyager, je ne fais pas en France. Moi, je voyage de village en village. Donc, il faut réfléchir sur le type de sanctions, sur le type de sanctions. Trouver les sanctions les plus efficaces. Et ça, c'est une grande question.
Justement, la MINUSCA, vous l'évoquiez, donc à travers notamment le DDR, essaie de mettre en œuvre l'accord de paix. Comment ces efforts complètent ceux de l'Union africaine? Vous en parliez déjà, l'Union africaine tout à l'heure, mais aussi la communauté économique des États d'Afrique centrale.
Oui, nous travaillons quand même, il faut le noter, vraiment en parfaite intelligence avec les deux garants de l'accord, l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CAC. Nous, Nations Unies, on est facilitateurs, comme les pays de la région, mais on travaille en parfaite intelligence. Les missions que nous menons de bons offices, nous les menons également avec les deux garants. L'interaction que nous avons avec le gouvernement, l'interaction aussi, nous la menons avec les deux garants. Et à chaque fois que nous dépêchons des missions à l'intérieur du pays pour rencontrer les chefs de groupes armés, nous organisons ces missions avec la CAC et avec l'Union africaine. Au moment où je vous parle, une mission des garants est à Khartoum pour discuter avec l'un des principaux leaders de groupes armés, Nourdine Adam, pour le convaincre de signer un accord de cessez-le-feu avec le MLCJ, l'autre mouvement contre lequel son mouvement, son groupe armé combat, le FPRC, à Birao. C'est tout ce que vous entendez sur Birao. Il a accepté de faire un cessez-le-feu pour 30 jours, pour engager des négociations avec l'autre mouvement. Donc ouais, ce travail avec l'Union africaine et avec la CAC, c'est un travail extrêmement important qui nous a permis d'avancer dans la mise en œuvre de l'accord. Quand j'ai briefé le Conseil de sécurité, le représentant de l'Union africaine également, briefé le Conseil de sécurité également depuis Khartoum, où il était en mission. Donc, il faut se féliciter de cette coopération intensifiée entre les Nations Unies, l'Union africaine et l'organisation régionale. C'est important de le souligner parce que la dynamique régionale dans le règlement de la crise en Centrafrique est très importante. La Centrafrique, c'est un pays très vaste. La Centrafrique, c'est la France et la Belgique réunies en termes de superficie. Et c'est 5 millions d'habitants. C'est un voisinage pas toujours facile. La Centrafrique a comme voisin le Tchad, a comme voisin la RDC, et comme voisin le Cameroun, où il y a Boko Haram, comme voisin le Soudan. Nous avons tous vécu récemment la crise au Soudan. Comme voisin le Sud-Soudan, il y a une crise. Donc c'est un voisinage très compliqué. Et il y a une interrelation ethnique entre les groupes ethniques qui vivent de part et d'autre, par exemple du Soudan. Donc cette dynamique-là, il faut bien la prendre en compte. C'est pour souligner l'importance de la contribution de la région au règlement de la crise en Centrafrique. Faire en sorte que la Centrafrique puisse avoir les meilleures relations avec ses voisins. Nous y travaillons. Il y a déjà des succès qu'on peut noter. Nous avons pu, avec le gouvernement, travailler pour que la commission mixte entre la Centrafrique et le Cameroun se tienne. Cette commission s'est déjà tenue. Que la commission mixte entre la RCA, la Centrafrique et le Congo se tienne, cette commission s'est tenue. Il y a un mois, la commission mixte entre la Centrafrique et le Tchad s'est tenue. Et nous travaillons pour qu'il y ait une commission mixte avec le Soudan, avec le Sud-Soudan et avec la RDC parce que la dynamique régionale est extrêmement importante pour le règlement de la crise en Centrafrique. Dans le passé, certains dirigeants des pays de la région s'étaient impliqués dans le règlement de la crise, mais depuis quelque temps, il y a un relâchement, une sorte de retrait pour l'intérêt qu'ils portaient en Centrafrique. Donc, il faut recréer cet intérêt, faire en sorte que cette dynamique régionale fonctionne, parce qu'elle est très importante, la dynamique régionale.
Devant les 15, vous avez également abordé les échéances électorales en 2020 et en 2021, les présidentielles et les législatives. Vous avez fait même un appel concernant ces élections. Vous avez aussi même évoqué le retour des anciens présidents, donc à Bangui. Quel type d'appui l'ONU peut-elle apporter aux autorités et à l'occasion de ces élections?
D'abord, le Conseil de sécurité a donné à la MINUSCA un mandat électoral fort. Le Conseil nous charge d'apporter tout l'appui technique nécessaire à l'organisation des élections, tout l'appui logistique, surtout la logistique est très importante, nécessaire à l'organisation des élections et l'appui également dans le domaine de la sécurité. Parce que la question de la sécurité est une question essentielle. Vous avez un pays en crise, en conflit armé. Comment organiser des élections dans un pays où vous avez 14 ou 20 groupes armés qui contrôlent les territoires, où l'État est présent à peine sur le tiers du territoire? Donc voilà, c'est un défi à relever. Le Conseil nous a donné ce mandat et nous y travaillons. Nous sommes en train de finaliser un plan de sécurisation des élections. Nous travaillons également, parce que le Conseil nous demande de jouer un rôle de coordonnateur de l'assistance électorale internationale à la RCA. C'est un mandat que le Conseil nous a donné. Nous travaillons également à mobiliser les ressources nécessaires, à mobiliser le financement nécessaire pour l'organisation des élections. Et la question du financement est une question essentielle. Je l'ai dit au Conseil, aujourd'hui, il y a un gap important à combler. Sur un budget de 41 millions de dollars, nous avons 17 millions de promesses de la part de l'Union européenne, promesses qui seront réalisées dans un mois ou deux, en mars ou en avril. Mais aujourd'hui, le basket fund qui a été mis en place et qui est géré par le PNUD est vide. Il n'y a pas un dollar. Et on a des gaps importants. On a quelques glissements sur le calendrier électoral qui avait été retenu par l'Autorité nationale des élections et par la Cour constitutionnelle. Ce gap mérite d'être comblé le plus rapidement possible. D'ici fin mars, nous avons besoin de 15 à 16 millions de dollars pour réaliser les opérations qui doivent être réalisées maintenant. Parce que bon, quand on parle des élections en décembre, les gens disent « oui, mais c'est en décembre, on a encore du temps ». Non, il y a des choses à acquérir maintenant. La cartographie électorale va se terminer en fin mars. Et dès le mois d'avril, il faut engager l'enregistrement des électeurs. Donc tout retard va impacter sur le calendrier électoral. Et il faut absolument que ces élections, comme le Conseil nous l'a prescrit, se tiennent dans le respect des délais constitutionnels, selon le calendrier défini par l'Autorité nationale des élections et par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que le premier tour devrait être organisé le 27 décembre. En cas de second tour, le 14 février. Mais si nous ne réussissons pas à organiser le premier tour le 27, c'est la voie ouverte vers la transition, vers une nouvelle transition, comme la Centrafrique en a connu il y a 5 ans. Et ce pays ne peut pas se payer le luxe d'une nouvelle transition. Donc il faut tout faire pour mobiliser les financements nécessaires et j'ai lancé un appel au Conseil, appel qui a été relayé par les membres du Conseil pour que très rapidement que les fonds nécessaires soient réunis, que les pays qui ont fait des annonces ou des promesses de contribution puissent les réaliser et pour qu'on n'ait aucun retard dans le financement du processus électoral. Donc là c'est vraiment impératif et j'insiste absolument sur la mobilisation des ressources sur le financement des élections.
Mankeur Diaye, merci. Voilà, fin de ce podcast hebdomadaire consacré donc à la situation mais aussi aux activités de l'ONU en République centrafricaine. Un magazine qui était préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Un programme d'ONU Info à retrouver avec nos journaux quotidiens, nos vidéos mais aussi nos articles sur Internet et sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et prochain rendez-vous avec notre podcast la semaine prochaine.